7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, quelle scolarisation pour les enfants handicapés en France? Le dossier handicap figurait en bonne place parmi les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Où en sommes-nous exactement? 14 ans après la loi de 2005 sur le droit à la scolarisation pour tous les enfants et adolescents handicapés, la France scolarise plus de 341 000 élèves en situation de handicap dans des écoles ordinaires. C'est un nombre qui a triplé en 10 ans. Une progression aussi à marche forcée qui ne se fait pas sans douleur pour les enseignants, alors que les associations, de leur côté, relaient en permanence les difficultés des parents à trouver une place pour leur enfant, à obtenir aussi un personnel accompagnant en classe. Alors, la France progresse-t-elle réellement par rapport notamment à d'autres pays d'Europe ou au Canada? Un plan d'action devrait être annoncé en mars prochain qui fait suite à la concertation Ensemble pour une école inclusive. On va en parler justement avec nos invités. Bénédicte Kell, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère nationale éducation famille à l'APF France Handicap. Nous sommes également en ligne avec Christelle Chasson. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Christelle Chasson, vous êtes maman d'un petit garçon de 13 ans, polyhandicapé. Comme beaucoup de parents, vous avez raconté votre combat dans un livre pour alerter l'opinion. Ethan ira-t-il à l'école, qui est publié aux éditions Autrement. Avec nous dans le studio, Jean-Marc Huard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, la DGESCO, au ministère de l'Éducation nationale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la DGESCO, c'est un poste clé au ministère. Vous êtes le patron de la boutique après le ministre de l'Éducation. Et d'ailleurs, c'est un poste qui a été occupé par Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Éducation. La boutique, comme je disais familièrement, premier employeur public de France. Et quant à vous, les voisins, si vous êtes concernés par le sujet en France ou si vous vivez dans un pays où le handicap est mieux pris en charge, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un téléphone WhatsApp où vous pouvez laisser des messages écrits. Et puis en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, parents-enfants d'ici et d'ailleurs, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer?
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble.
C'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins
et la planète se barre.
Bénédicte Kell, j'aimerais que vous nous expliquiez d'emblée, pour mieux qu'on comprenne, à quoi ressemble le parcours pour mener un enfant, quand on est parent, pour mener un enfant vers finalement une vie d'adulte avec le maximum d'autonomie possible. À quoi ressemble ce qu'ils appellent tous le parcours du combattant?
C'est ça, c'est la dénomination qu'ils emploient bien souvent, parce que quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on va avoir à appréhender tout un monde pour lequel on n'était pas préparé. Donc effectivement, on va avoir à rencontrer des acteurs, à connaître des dispositifs qui sont pas simples. Et donc quand on va vouloir scolariser son enfant, en fait, on peut avoir des besoins qui sont l'enfant peut avoir des besoins qui sont différents d'un enfant ordinaire. Donc on va avoir effectivement à intégrer un certain nombre de dispositifs, à faire un certain nombre de demandes qui font qu'on ne relève pas forcément d'un parcours ordinaire. Donc pour les parents, effectivement, ça peut être un monde un peu compliqué.
Christelle Chasson, si je vous demandais de résumer ce parcours du combattant, vous allez me dire c'est impossible en quelques phrases pour mener votre enfant à l'école, Ethan.
Bah, c'est très compliqué. Après, si je devais employer un seul mot, je dirais chaotique. Mm-hmm. Parce que si mon fils est aujourd'hui scolarisé, il est en classe de 5e Ulysse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, l'éducation nationale a compris que c'était un enfant qui avait toute sa place à l'école. Mais si on en arrivait là aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention d'huissiers de justice, d'avocats, et à ma détermination, parce que sinon l'école n'en voulait pas.
Pour faire respecter le droit de votre enfant à être scolarisé, votre fils a 13 ans, il est scolarisé dans un collège ordinaire, le même collège que votre fille.
C'est ça.
En Haute-Savoie. Vous avez, alors évidemment, on ne peut pas faire cette émission sans parler de sigles. Il est dans un système ULIS, c'est-à-dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire que c'est des unités particulières au sein d'une école ordinaire qui permettent justement d'accueillir des enfants qui ont des besoins particuliers.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il a comme accompagnement par rapport à un élève ordinaire ?
Par rapport à un élève ordinaire, déjà, il y a l'aide technique. Il écrit sur un ordinateur. Donc ça, c'est obligatoire parce qu'il ne peut pas écrire avec un stylo. Mmh. Et après également, c'est l'aide humaine. Il a besoin d'une assistante de vie scolaire en permanence avec lui.
Mmh. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer quel est le handicap de votre fils, Ethan ?
Mon fils, il est infirme moteur cérébral. Donc effectivement, si vous voulez, ça se résume avec des problèmes de motricité. Donc en termes de motricité globale, il se déplace tout seul, il peut porter son sac, mais par contre l'AVS elle est là pour le ramener à la tâche.
L'auxiliaire de vie scolaire.
C'est ça, elle le ramène à la tâche et puis du coup elle peut prendre des notes quand lui justement il est trop fatigué pour pouvoir en prendre. Mm-hmm. La présence de l'AVS elle est obligatoire, mais ce que je regrette c'est que depuis 9 ans, il en a eu une seule de formée.
Et pourquoi cela ?
Ben, ça, il faut le demander à l'éducation nationale. Mmh. Moi, je fais la demande tous les ans d'avoir une personne formée. Une seule année, effectivement, j'ai eu une réponse positive. Et c'est la seule année qui s'est véritablement bien passée.
Mmh. Ça veut dire que vous avez dû faire face à des assistants de vie scolaire qui partaient au bout de quelques semaines,
jours, le dernier.
Combien de jours ?
6 jours, le dernier, année scolaire.
Pourquoi ?
Il est resté 6 jours.
Et pourquoi il est resté 6 jours seulement auprès de votre fils ?
Ben, il a dit que c'était trop compliqué. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a mis cette assistante de vie scolaire. Donc moi, je ne veux pas forcément lui jeter la pierre. Mmh. Il n'était même pas au courant du handicap de mon fils. Mmh. Donc il ne savait pas du tout, justement, que mon fils avait des troubles du comportement. Surtout au début de la rentrée scolaire. C'est toujours c'est toujours beaucoup d'angoisse pour lui. Et si vous voulez, il est arrivé comme ça. Et je pense qu'il n'était pas préparé.
Mais vous dites, il est arrivé comme ça, vu de loin, on se dit que c'est un métier.
Ah ben non. Enfin, moi, personnellement, non. J'ai une assistante de vie de mon fils, qui était une ancienne coiffeuse, qui voulait qui était en fin de droit. Mmh. On lui a proposé, justement, d'occuper ce poste-là. Et j'ai même appris par la suite qu'elle avait plus la garde de ses 3 enfants, parce qu'elle avait été maltraitante. Mmh. Alors, autant vous dire que moi, je suis extrêmement pessimiste quant à justement l'accompagnement de ses enfants.
Je voudrais qu'on revienne à une question qui peut sembler naïve, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le handicap, Christelle Chasson et Bénédicte Kell, pourquoi c'est si important pour les parents que leur enfant, malgré le handicap, fréquente une école ordinaire ?
Parce que c'est un enfant et que la place d'un enfant, c'est à l'école. Je crois que c'est simplement ça. Je veux dire, pour les parents, ils ont un enfant, l'instruction est obligatoire. Donc pour eux, effectivement, il est normal et légitime que l'enfant soit à l'école.
Je voulais dire par rapport à un institut médico-éducatif, par exemple. Et bien sûr que la place d'un enfant est d'être pris en charge, quel que soit le mode de la prise en charge. Évidemment, ne pas rester à la maison toute la journée.
Après, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société. Je veux dire, si effectivement, on veut une société où les enfants sont mis à part sous prétexte qu'ils ont une situation de handicap, effectivement, on peut dire qu'on va les mettre dans des instituts spécialisés. Mais je ne pense pas que ce soit le modèle de société qu'on veut. Je veux dire, la place d'un enfant, quel qu'il soit, je veux dire, qu'il soit d'origine étrangère, qu'il soit handicapé, qu'il soit blond ou roux, c'est à l'école. Donc, et c'est à l'école d'essayer de s'adapter pour effectivement pouvoir scolariser l'ensemble des enfants.
Christelle Chasson, je vous pose la question aussi à vous, parce que je sais qu'en dehors de votre histoire familiale, c'est un sujet que maintenant vous connaissez bien, mais est-ce que vous diriez que ça permet des progrès pour, peut-être pas tous les types de handicap, bien sûr, mais pour certains types de handicap, le fait d'être en milieu ordinaire ?
Ben moi, personnellement, je pense que c'est une évidence. Pour mon fils, en tous les cas, c'en est une. On a visité à 2 reprises des structures spécialisées, justement, et quand on en est ressorti, il ne comprenait pas, parce que pour lui, sa place, elle est à l'école. C'est un enfant qui apprend très bien, qui est très intelligent. Alors effectivement, il a des besoins particuliers, mais ces besoins particuliers-là, si l'école, elle met les moyens, eh ben, il peut tout à fait s'épanouir à l'école.
Ouais. Alors Jean-Marc Huard, le patron de la DGESCO à l'Éducation nationale, on est presque 15 ans après la loi sur le handicap qui a été portée par Ségolène Royal. Quand on entend ça, on se pose la question, est-ce que la France a réellement progressé en 14 ans depuis la loi de 2005?
Je crois qu'il y a eu énormément de progrès. Vous donniez des chiffres tout à l'heure, nous avons multiplié par plus de 6 depuis la loi de 2005 le nombre d'enfants en milieu ordinaire, le nombre d'enfants handicapés en milieu ordinaire. C'est une progression qui nous mène à plus de 340 000 enfants handicapés aujourd'hui qui sont scolarisés en milieu ordinaire et près de 180 000 de ces enfants ont un accompagnant. Et je pense qu'on reviendra sur la situation de ces accompagnants. Nous partageons totalement l'objectif et la valeur de portée par l'école inclusive. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, hein, sur le fait que l'inclusion dans l'école, le fait de pouvoir accueillir tous ces enfants, quel que soit le handicap, en milieu ordinaire, est absolument essentiel. C'est essentiel dans le cadre de leur scolarisation, dans le cadre de leur développement en tant qu'enfant, et c'est essentiel aussi dans la préparation ensuite à la vie d'adulte et à la vie professionnelle. Donc nous avons, encore une fois, une progression importante. Je vais essayer de pas donner trop de chiffres, mais je voudrais quand même vous donner quelques éléments. Nous avons les maisons départementales du handicap font des notifications pour que vos auditeurs comprennent bien tous les ans, notamment des notifications de d'accompagnants, et nous avons une progression d'une année à l'autre qui est de l'ordre de 15% tous les ans de notifications.
Mmh. Elles sont totalement débordées, ces maisons départementales du handicap. Pas du tout assez dotées en personnel pour traiter les dossiers. Il y a plusieurs mois d'attente parfois pour avoir une réponse, alors que normalement, ça ne devrait pas dépasser 4 mois. Certaines ont même dû fermer pour traiter des dossiers. Elles sont en grande situation de difficulté, ces maisons départementales du handicap.
Alors, ça montre aussi qu'il y a effectivement une dynamique sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Notre objectif est de pouvoir faire en sorte que dès qu'il y a une notification, parce que nous intervenons à ce moment-là à l'Éducation nationale, nous puissions, dans les délais les plus raisonnables possibles, pouvoir doter les enfants d'un accompagnant. Je rappelle aussi, et c'est ce que l'on disait à l'instant, qu'il y a 190 000 enfants accompagnés qui ont besoin d'un accompagnement. Mais à côté de cela, il y a aussi la scolarisation au total de plus de 340 000 enfants handicapés. Tous n'ont pas besoin d'accompagnement.
Alors, on a à peu près 80 000 AVS et AESH. Là aussi, on est dans le corps des accompagnants, Bénédicte Kell.
Oui, il y a la difficulté à l'heure actuelle, et l'exemple de Christelle là est flagrant, c'est qu'en fait, il y a deux statuts actuellement. En fait, être accompagnant, c'est une fonction. Et à l'heure actuelle, il y a deux statuts pour exercer cette fonction. Il y a le statut d'AESH, qui est accompagnant d'élèves en situation de handicap, qui est un contrat d'éducation nationale, un contrat de droit public. Et il y a aussi recours à ces AVS, auxiliaires de vie... C'est pas auxiliaire de vie scolaire. Oui, tout à fait. Il y en a de moins en moins. Et en fait, c'est des contrats, c'est Pôle emploi. C'est des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont effectivement ces contrats-là, qui sont des contrats courts, renouvelables ou pas. Et du coup, effectivement, avec des personnels qui sont pas, qui ont pas forcément choisi, en fait, d'accompagner ces enfants au départ.
D'où le témoignage de Christelle Chassant.
Voilà, tout à fait. D'avoir quelqu'un qui débarque.
Qui arrive là pratiquement par hasard.
Mais oui, tout à fait.
On a effectivement, ce point est fondamental. Nous avons effectivement deux statuts. Nous avons d'un côté des contrats aidés. C'était finalement dans le vivier des contrats aidés. On voit aussi l'intérêt que ça peut avoir pour les personnes d'être employées sur ce statut. Et puis on a, je vais essayer d'utiliser le seul sigle, des AESH, des accompagnants d'enfants en situation de handicap, qui sont maintenant un nouveau statut. Tout le travail que nous menons actuellement, et c'est un effort tout à fait considérable, c'est de déprécariser la fonction d'accompagnant. Et la déprécarisation de fonction d'accompagnant, elle passe par la transformation de contrat aidé en emploi d'AESH. Ce qui signifie qu'en 2020, nous n'aurons plus que des AESH et nous n'aurons plus de contrat aidé. La particularité des AESH, c'est qu'ils reçoivent à leur entrée en fonction, ce sujet a été indiqué tout à l'heure, une formation qui est une formation de 60 heures au moment de la prise, de fonction. Donc c'est vraiment un axe extrêmement fort de notre politique que de déprécariser la situation de ces accompagnants, de leur permettre de s'inscrire sur du long terme. Effectivement, une situation de 8 jours de prise de fonction n'est pas tolérable. Hein, et c'est justement au travers de la considération que l'on porte à ces personnes que l'on peut les fidéliser.
On voit bien dans les chiffres que vous donnez, c'est qu'effectivement on a quand même eu depuis 15 ans une politique à marche forcée, c'est-à-dire qu'on a les chiffres aujourd'hui, même s'il n'y a pas suffisamment d'accompagnants, ça c'est sûr, mais en tout cas quand il y en a, à l'heure actuelle, la réalité est en décalage avec les chiffres annoncés.
Même les chiffres, ils se discutent. Hein. Je veux dire, effectivement, il y a une très forte progression, ça on ne va pas le nier, il y a une très forte implication, et je pense qu'effectivement, pour le ministère, la question de l'école inclusive, elle ne se pose plus. Maintenant, je veux dire, sur le terrain, je veux dire, 340 000 enfants, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont tous pouvoir progresser de la même manière.
Pour 80 000 AVS oui, et AESH, besoin d'un accompagnant.
Tous n'ont pas besoin, d'accord. Et je dirais même que l'augmentation exponentielle du nombre d'accompagnants, il n'est pas forcément positif. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément un bon signe pour l'école. Mmh. Parce que ça montre aussi qu'elle n'est pas forcément
les
en capacité.
Les enseignants ne sont pas contre les accompagnants. Mais
justement,
c'est un autre problème.
C'est justement un autre problème.
Je pense que
c'est ça, mais je pense que c'est aussi parce que ça les rassure d'avoir un compagnon. Mais parfois, on n'est plus dans une réponse aux besoins de l'enfant, on est dans une réponse aux besoins du système.
Ouais. Mais un enseignant, il n'a pas eu 60 heures de formation.
Tout à fait. Ça, c'est un autre
handicap. Hein.
C'est pour ça aussi que son
inquiétude.
Petit à petit, je veux dire, les enfants, ils restent pas finalement aussi longtemps que ça en milieu ordinaire. Hein. Je veux dire, ils sont effectivement orientés, comme Ethan, vers un dispositif ULIS où ils sont même orientés vers une unité d'enseignement du médico-social. Je veux dire, on le voit, hein, je veux dire, et les chiffres le montrent, à 6 ans, il y a 80% des enfants qui sont à l'école ordinaire, à 10 ans, il y en a moins de 50% qui sont en classe ordinaire. Après, ils sont ailleurs.
On voit bien
quand même, effectivement, la difficulté qu'en fait à l'éducation nationale à les garder dans la classe ordinaire, ces enfants-là.
Sans parler du temps plein, parce que là aussi, il y a en permanence de la remise en cause du temps plein scolaire pour l'enfant. Est-ce que Christelle Chassan, vous avez été confrontée à cette problématique-là?
Écoutez, moi, je ne parle même pas pour moi, parce que j'ai à peu près 230 familles autour de moi dont je connais le cas personnel. Et moi, je peux vous dire qu'effectivement, les chiffres, ils augmentent. 140% d'augmentation depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui.
140% contre, d'augmentation de quoi?
D'augmentation de la scolarisation de ces enfants en milieu ordinaire. Mmh. Donc effectivement, quand on voit les chiffres comme ça, on peut être satisfait. Mais moi, parmi tous ces enfants dont je vous parle, il y en a une grande majorité qui sont scolarisés une demi-journée par semaine, une heure par semaine. Et le reste du temps, c'est des enfants qui ne sont pas pris en charge, qui sont chez eux. Le père, la mère est obligé de s'arrêter de travailler pour s'occuper de cet enfant-là.
Ça veut dire, Christelle, pour qu'on comprenne bien, qu'un enfant scolarisé une heure par semaine, il est comptabilisé comme enfant scolarisé en milieu ordinaire.
Bien sûr. Moi, cette réponse positive que vous me demandez là, je l'ai eue même de l'inspection académique et de la référente scolaire. Donc oui, bien sûr.
Jean-Marc Huard.
Non, on n'est pas. Enfin, il faut regarder les situations précises, hein, notamment autour, enfin des personnes qui sont évoquées à l'instant. Mais la scolarisation des enfants, et lorsqu'il y a un accompagnant, et l'objectif, c'est une scolarisation qui est une scolarisation complète ou la plus complète qui soit. Je voudrais rebondir juste sur la question des ULIS, les unités
localisées pour l'inclusion scolaire
sont un plus pour favoriser l'inclusion en milieu ordinaire et l'école inclusive. Hein.
On est d'accord.
Donc, c'est une opportunité quand elle fonctionne bien. L'école, hein, on est bien d'accord.
Tout à fait. Il y a des professeurs référents, ce qui permet justement une coordination, ce qui permet avec des enseignants qui sont très spécialisés pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, de permettre d'ailleurs l'intégration dans les classes ordinaires de manière beaucoup plus facilitée. Donc ça ne s'oppose pas, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, nous avons un plan qui vise notamment dans le second degré, dans le premier degré aussi, mais elles sont un petit peu plus développées, notamment dans le second degré, de créer 250 unités supplémentaires d'ici 2022, ce qui va renforcer encore la capacité d'inclusion.
Christelle Chasson, est-ce que pour vous c'est une solution de renforcer ces unités à l'intérieur des collèges ou des écoles ordinaires? Et comment vous réagissez aussi par rapport à ce que disait Bénédicte Kell, où le fait d'augmenter les accompagnants, c'est peut-être pas forcément un but en soi?
Ben, je pense que ça, c'est au cas par cas, effectivement.
Bien sûr.
Moi, mon fils, c'est sûr qu'il ne peut pas être scolarisé sans l'accompagnement individuel. Mmh. Après, voilà, comme l'a dit monsieur, ce n'est pas le cas de tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés, qui n'ont pas ce besoin particulier. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas imaginer que mon fils soit scolarisé sans assistante de vie scolaire individuelle. Ce n'est pas possible.
Bien sûr.
Et sur les ULIS?
Ben, les ULIS, moi, je trouve... Pour moi, c'est complètement positif dans le cas de mon fils, puisque être dans une classe de 30 élèves avec tout le bruit, c'est quelque chose qui est pas possible pour lui. Et la maîtresse justement qui est formée, elle lui permet de travailler sur des points plus particuliers. Quand il est fatigué, justement, il peut prendre du temps pour se reposer, ce qui serait pas possible dans une classe ordinaire.
Je peux vous poser une question? Combien de temps Ethan est accueilli en classe ordinaire tout en étant accompagné par le dispositif ULIS? Parce que vous parlez de l'ULIS comme d'une classe, alors que dans les textes, c'est censé être un dispositif.
Ouais. Dans le cours d'une journée,
dans
comment
le cours
ça
d'une
se
journée,
passe
combien de fois il est dans la classe dans laquelle il est inscrit? Parce que normalement...
Aucune.
Et voilà. Donc, en fait, vous êtes dans une classe ULIS qui... Enfin, vous le dites vous-même, hein, c'est une classe et ça ne fonctionne pas en réalité comme un dispositif. Bah, normalement, je veux dire, en tous les cas, c'est la demande et c'est les textes, l'enfant, votre fils, il devrait être accueilli dans sa classe de référence et être accompagné par le dispositif autant qu'il en a besoin.
Mais en fait, le cas de votre fils, en quoi c'est de la scolarisation ordinaire finalement, le cas de votre fils? À partir du moment où il est en permanence dans une unité spécialisée, certes géographiquement au sein d'un collège ordinaire, mais c'est tout. Finalement.
Je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est vrai que moi, mon fils, il fait partie des trois élèves de sa classe qui, effectivement, ne bénéficient d'aucune inclusion. J'ai eu une réunion avec l'équipe enseignante le lundi 4 février. Comme, effectivement, il n'y a pas eu de trouble du comportement depuis cette rentrée scolaire, au retour des vacances de février, il va commencer justement à être inclus en musique, en sport. Mais ça c'est une demande que je fais déjà depuis 2 ans. Le problème, si vous voulez, c'est que si mon fils était accompagné d'une AVS formée, il pourrait parfaitement, c'est un élève qui est même doué en français, qui est passionné d'histoire-géographie, il pourrait parfaitement suivre les cours de la classe de 5e classique. Le problème, c'est que comme il est accompagné par une AVS qui est débordée pour pas grand-chose, et bien du coup, on ne lui permet pas d'être scolarisé comme ça dans sa classe ordinaire. Et il est reclus en ULIS.
C'est ça. Oui, vous avez employé ce mot, reclus. Christelle Chasson, Bénédicte Kell et Jean-Marc Huard, vous restez avec nous. Bien évidemment, on continue le dialogue et la discussion. Quelle scolarisation pour les enfants en situation de handicap en France? Ça sera juste après Human.
Sept milliards de voisins, c'est sur RFI.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
C'est Human, Ragan Bonneman chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct, on parle de la scolarisation des enfants en situation de handicap en France. On le disait, les chiffres ont beaucoup progressé. On a 341 000 enfants aujourd'hui scolarisés en ce qu'on appelle dans des écoles ordinaires. Mais on voit bien qu'entre les chiffres et la réalité, c'est pas toujours aussi simple. Christelle Chassant nous racontait que pour le cas de son petit garçon de 13 ans qui est scolarisé en classe de 5e en collège, en réalité il est géographiquement effectivement scolarisé dans un collège, mais il ne fréquente à aucun moment de la journée la classe dans laquelle il est inscrit. C'est bien ce que vous nous disiez, Christelle Chassant, puisque votre fils est dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Vous parliez, plutôt que d'ailleurs de parler d'inclusion scolaire, vous parliez de reclusion en milieu scolaire. Alors effectivement, les chiffres, les mots sont forts. Il y a eu une concertation, Jean-Marc Huard, vous êtes le directeur de la DGESCO au ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu une concertation depuis plusieurs mois avec des conclusions qui ont été rendues il y a quelques jours, au mois de février, avec donc en partenariat ministère de l'Éducation, le secrétariat d'État au handicap. Ça a fait ressortir des priorités. Aujourd'hui, comment ces priorités vont déboucher sur un plan d'action en mars, qu'est-ce qui se profile dans les tuyaux?
Alors les ministres évidemment qui ont reçu les conclusions de cette grande concertation il y a quelques jours, quelques semaines, Jean-Michel Blanquer, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, avec laquelle nous travaillons quotidiennement, ont reçu effectivement la conclusion de cette concertation, dans laquelle il y avait en gros trois axes, le travail et les relations avec les familles, qui est absolument essentiel, la situation, on en parlait dans la première partie de l'émission, des accompagnants, et notamment du statut des accompagnants. Et puis, troisième axe, les modalités d'accueil. Ça me permet de rebondir sur un point, ce que disait Christelle Chassant également, c'est que l'unité localisée d'inclusion scolaire était un élément positif pour permettre la scolarisation de son enfant. Nous sommes, et c'est tout le défi auquel nous sommes confrontés, nous sommes face à des individualités, nous sommes face à des situations qui sont des situations différentes. Et il ne peut pas y avoir de solution unique. Tout l'objet du travail que nous menons, c'est de faire en sorte que, avec cet objectif, d'école inclusive, le fait que les enfants soient en classe ordinaire, les modalités d'accompagnement soient adaptées aux troubles, adaptés au handicap de chacun des enfants. Donc ça peut être de l'accompagnant individuel, ça peut être de l'ULIS avec de l'intégration en classe sans accompagnant individuel, et puis ça peut être aussi ce que nous appelons les PIAL, c'est-à-dire des unités dans lesquelles il y a plusieurs accompagnants qui sont affectés à un établissement ou affectés à une zone géographique et qui permettent quand la maison départementale des personnes handicapées fait une notification, et bien finalement que les accompagnants soient d'ores et déjà dans les établissements et que la scolarisation se fasse le plus facilement possible.
On a quoi, plus de 2% maintenant des élèves en situation de handicap parmi la population scolaire. C'est un chiffre évidemment qui augmentera. Aujourd'hui, les associations comme la vôtre, Bénédicte Kell, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui est le plus urgent en fait? Vu en plus la diversité des handicaps, comme le disait Jean-Marc Huard.
Pour nous, le plus urgent, c'est un point justement qui n'a pas beaucoup été évoqué dans la concertation, c'est la formation des enseignants. Clairement, c'est la formation des enseignants et c'est l'accompagnement des enseignants également, parce que effectivement, en fait, réussir l'école inclusive, c'est pour un enseignant être en capacité d'adapter sa pédagogie par rapport à l'ensemble du public qu'il a. Et on le voit, de toute façon, c'est aussi une difficulté qu'a l'école française, de toute façon, depuis le départ. Je dirais quelque part,
il n'est pas formé pour enseigner à un enfant qui a des troubles du comportement importants, par exemple.
Non, Tout à fait, tout à fait. Et c'est là, effectivement, par contre, sur des troubles de comportement, où il y aura bien évidemment besoin d'un accompagnant. Mais pour un enfant qui est dyslexique, pour un enfant qui a un certain nombre de troubles des apprentissages, là, effectivement, je veux dire, c'est à l'enseignant de savoir adapter sa pédagogie pour être en capacité de répondre aux besoins de cet enfant-là. Et même ça, à l'heure actuelle, un enseignant, ne sait pas forcément le faire. Donc il y a besoin de formation et il y a besoin, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui sont déjà en cours d'emploi, hein, donc on n'est plus dans la formation initiale, il y a besoin de formation continue et il y a besoin de ressources pour ces enseignants. Mais de ressources qui ne soient pas juste un site numérique, hein, c'est bien, c'est en projet, etc. C'est une réponse, mais ça ne peut pas être la seule.
Ils le font déjà, n'importe quel enseignant qui a un enfant handicapé dans sa classe,
bien sûr, ils le font déjà.
Il va sur Internet pour se renseigner parce qu'il est démuni. Donc,
bien sûr. Mais donc nous, notre souhait, là, Monsieur Huard parlait là des PIAL, qui pour le moment effectivement donc sont considérés simplement pour gérer les aides humaines. Nous, notre souhait, et ça a été un peu évoqué à la fin de la concertation, c'est que ça puisse évoluer vers des pôles ressources qui puissent effectivement aussi utiliser les ressources du médico-social qui connaissent le handicap, donc ont peut-être des choses à apporter, qui puissent effectivement aussi bénéficier de la formation spécialisée d'un certain nombre d'enseignants spécialisés, donc qui du coup puissent être aussi en fait ressources pour les collègues. Donc on soit vraiment effectivement sur des pôles ressources pour une école inclusive.
Donc, vous dites qu'il faut miser beaucoup sur la formation des enseignants et c'est eux que doit reposer l'école inclusive. Les parents ne disent pas forcément ça. Christelle Chalsan, vous êtes toujours en ligne avec nous. Hein. Vous nous parlez beaucoup des accompagnants. On sent que les parents sont un peu inquiets à l'idée que ce soit les enseignants qui reprennent la main sur ces problèmes-là, non ?
Il faut les deux.
Non mais madame, voilà, madame a la raison, il faut les deux, c'est tout à fait ça. Je veux dire, effectivement, il faut la bienveillance aussi des enseignants. Nous, on a été confrontés à des situations terribles.
Ah oui.
Et d'ailleurs, quand je vous parlais là de la dernière réunion du lundi 4 février, quand le directeur a évoqué la possibilité pour mon fils de faire enfin une inclusion en sport, dans une semaine, hein, l'éducateur de la classe et la maîtresse ont dit « ça va être compliqué, il va falloir trouver un professeur qui accepte de le prendre ».
On en est encore là aujourd'hui? Il y a encore des enseignants qui disent « non, c'est pas mon métier, je ne veux pas en entendre parler ». Réellement ?
Bien sûr. Moi, j'ai des amis qui sont profs. Hein. J'ai un ami qui est directeur d'un lycée. Sa femme est professeure de physique-chimie dans ce même lycée. Et au début de l'année, quand on leur dit tu vas t'occuper de telle classe, il y a un enfant en situation de handicap, il y en a, ils ne sont pas contents du tout.
Ça veut dire que les mentalités n'ont pas tant que ça évolué ?
Non, pas beaucoup. C'est au cas par cas. C'est comme je vous dis, il y a des fois, on tombe très bien. Moi, j'ai la maîtresse de mon fils de CM1 qui avait tellement bien accroché avec mon fils qu'a fait le nécessaire pour le suivre au collège. Donc vous voyez, il y a vraiment des gens formidables. Mais à côté de ça, c'est toujours l'incertitude. Là, justement, je ne sais pas si mon fils va pouvoir intégrer le sport, parce que est-ce qu'il va y avoir un professeur qui va accepter d'avoir un élève en situation de handicap dans sa classe.
Alors néanmoins, on trouve aussi des témoignages d'enseignants qui disent que l'enfant en situation de handicap leur a permis de grandir aussi dans leur façon d'exercer leur métier, hein, que ça leur a beaucoup appris en fait d'être face à ces difficultés nouvelles. Bon, dans les textes, dans la réalité, la loi sur l'école de la confiance, Jean-Marc Huard, qui a été adoptée à l'Assemblée, il y a quoi sur le handicap ?
Alors il y a pas mal de choses d'ailleurs qui ont été apportées par amendements du gouvernement lors de la lecture à l'Assemblée. Je voulais dire un mot sur la formation, hein, justement, des enseignants. L'enjeu, il est absolument considérable. Je rappelle, vous évoquiez la taille de notre institution. Ce sont 800 000 enseignants qui exercent actuellement dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées. Et donc, l'enjeu et la priorité, elle doit être absolument essentielle. Essentielle en formation initiale, on le disait, il faut que dans les instituts de formation des professeurs, la question de l'école inclusive soit abordée systématiquement.
Qu'est-ce que vous appelez aborder ?
Fasse partie de la maquette de formation au même titre que d'autres éléments constitutifs du métier d'enseignant sur les apprentissages et notamment les apprentissages fondamentaux. Donc ça, c'est totalement intégré, c'est totalement acquis. Ça, c'est le premier point. Mais effectivement, la formation initiale ne suffit pas, puisque, vous le dites très justement, le nombre de professeurs qui sont déjà en exercice est évidemment majoritaire. Et donc, alors, il faut mettre à disposition des ressources, et je suis d'accord avec vous que des ressources numériques ne suffisent pas, mais enfin, tout de même, entre le moment où elles n'existent pas et le moment où elles existent, on franchit un pas tout à fait considérable. Et donc, pour la rentrée scolaire prochaine, enfin la fin de cette année scolaire, il y aura une plateforme numérique qui s'appelle Cap École Inclusive, qui sera à destination de tout enseignant accueillant un enfant handicapé, qui proposera des ressources pédagogiques et des ressources pédagogiques qui seront adaptées à la situation individuelle et aux différents types également de handicap. Et ça, je crois que c'est un progrès considérable. Nous devons aussi, au quotidien, mieux accompagner les enseignants lorsqu'ils accueillent en milieu ordinaire des professeurs. Pour cela, nous augmentons le nombre de professeurs ressources. Ça fait partie d'ailleurs du débat parlementaire, hein, des professeurs ressources. Nous avons 100 professeurs ressources supplémentaires depuis la rentrée 2018. Nous aurons 100 professeurs ressources supplémentaires à la rentrée 2019.
Mais qui vont faire quoi ? De la formation initiale, de la formation continue, en fonction des besoins ?
Et de l'accompagnement et de la réponse également aux questions que se posent les professeurs au quotidien. Les professeurs ressources, ce sont des professeurs qui sont spécifiquement formés.
Mais sous quelle forme ? C'est un standard téléphonique qu'on appelle, on pose des questions ou c'est vraiment des packages de formation ?
C'est du déplacement, c'est de l'organisation de formation, c'est des regroupements, ça peut être du contact téléphonique également. Voilà. Donc c'est tout un panel d'activités qui sont là pour accompagner les professeurs.
L'objectif d'avoir 50% des enfants qui sont actuellement dans les instituts médico-éducatifs, donc qui sont donc justement pas inclus dans les IME et qui seraient accueillis à l'école ordinaire d'ici 2020, est-ce que c'est possible et comment ? Est-ce que ça sera réaliste, cet objectif-là ?
En tout cas, nous sommes complètement mobilisés vers cet objectif. C'est un engagement, fort des ministres. Le président de la République l'a dit. Donc nous mettons tout en œuvre pour atteindre des objectifs qui sont une inclusion de plus en plus forte.
Ils sont plus que ça en milieu ordinaire. Il n'y a pas 50% des enfants en unité d'enseignement. Mais je pense que, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Barre, la différence, elle est aussi par rapport aux situations de handicap, par rapport à la nature des troubles.
Bien sûr.
On est très loin encore de pouvoir scolariser l'ensemble des enfants. Mais je dirais même en unité d'enseignement. Il y a des enfants actuellement, des enfants polyhandicapés, vraiment avec de gros troubles cognitifs et moteurs. Hein. Le polyhandicap, c'est ça aussi. Il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels il n'y a même pas d'unité d'enseignement. On n'arrive même pas à avoir un enseignant détaché de l'éducation nationale pour scolariser ces enfants. Donc on est, voilà, il y a du progrès à faire. Il est fait, je veux dire.
Hein. Une scolarité en institut spécialisé, ça coûte beaucoup plus cher que dans une école ordinaire. On est d'accord.
Alors ça...
Je pense que oui, mais le sujet est bien, enfin c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est favoriser justement l'inclusion en milieu ordinaire. Je voulais dire un mot sur le quatrième plan.
Non, mais je veux dire, s'il y a de plus en plus de transferts des IME vers l'école inclusive, ça va permettre des économies d'échelle, a priori.
Il faut de toute façon qu'il y ait un lien entre
les... À qui vont profiter ces économies d'échelle ? Est-ce qu'elles seront retransférées au service de l'accueil des enfants handicapés dans l'école inclusive ?
Non, mais je crois que la collaboration qu'il y a entre l'éducation nationale et le secteur médico-social est absolument essentielle. L'exemple des enfants autistes, hein, c'est un exemple tout à fait parlant de ce point de vue. Nous avons créé plus d'une centaine d'unités d'enseignement dans les écoles maternelles, hein, pour les enfants autistes. Nous en créerons encore 30 à la rentrée 2019. Et très précisément, ces unités d'enseignement se font dans le cadre d'une collaboration avec le milieu médico-social. Et donc, on repousse les frontières, si vous voulez, hein, et on veut véritablement intégrer plus d'enfants. Et on va sur des handicaps qui sont sans doute plus difficile à intégrer. Et là, la collaboration avec le médico-social, il est absolument fondamental.
Ça veut dire qu'on va de toute façon vers une augmentation de la démographie du handicap en milieu ordinaire, dans les écoles ordinaires, notamment aussi parce qu'il y a une explosion des troubles de l'apprentissage qui sont mieux détectés qu'auparavant, mais ça existe déjà depuis quelques années. Est-ce que vous pensez, Bénédicte Kell, qu'il y aura les moyens suffisants pour faire autre chose que uniquement du chiffre ?
Pour passer à la qualité, je pense qu'il y a déjà une évolution vers la qualité.
Ça serait quoi le modèle pour vous en Europe?
Moi, je vais en Islande ou au Portugal. Hein. Je veux dire, je suis parent d'un enfant en situation de handicap.
Au Portugal, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit un pays dont les finances publiques soient...
Non, mais en matière...
Dans une très bonne santé.
Non, mais en matière, effectivement, d'école inclusive, je pense qu'ils font mieux que nous. Mais parce que, effectivement, c'est une conception aussi, comme en Islande, chaque enfant, quelque part, en fait, est considéré comme un être avec ses particularités. Et donc, quelque part, on va construire un plan de scolarisation pour chaque enfant, qui va s'adapter, en fait, effectivement, qui va prendre en compte les besoins particuliers de chacun des enfants. Donc, forcément, je veux dire, on va amener cet enfant à progresser, parce que on va pas l'évaluer non plus par rapport à des programmes scolaires hyper rigides, des attendus scolaires hyper rigides. On a une vision un peu élitiste de l'école en France quand même, hein. Et ça dessert forcément. Hein. Donc voilà, à partir du moment où on le prend dans son singularité et que ce qu'on travaille, c'est où est-ce qu'il en est au moment A et où est-ce qu'on veut l'amener au moment B, et ben on va faire progresser l'élève.
Ça veut dire qu'on a un système, une école, une éducation nationale qui n'est pas a priori, qui n'est pas faite pour être très en phase avec une philosophie de l'école inclusive par rapport à d'autres pays d'Europe du Nord. C'est ce que vous venez de nous dire, finalement.
On a peut-être une marche un peu plus importante à franchir.
Oui, mais la marche, j'espère qu'on a montré que cette marche, nous sommes en train de la franchir.
Tout à fait.
Et encore une fois, le chemin parcouru depuis 15 ans qui est considérable. Il y a encore des marches à franchir, hein, on en a tout à fait conscience. On est complètement mobilisés là-dessus. Et moi, je veux rendre hommage aussi à tous les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale dans cette transformation qui est tout à fait exceptionnelle.
Christelle Chassan, je vous laisse le mot de la fin. Vraiment, il nous reste quelques secondes avant qu'on passe à notre dernier sujet. Qu'est-ce que vous réclamez de la façon la plus urgente pour votre fils, Ethan ?
Civilisation au handicap. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations. Personne ne connaît le handicap de mon fils dans l'école, ce qui du coup donne lieu à beaucoup de moqueries. Et c'est vrai que je trouve qu'il faudrait permettre ou aux associations ou aux parents qui sont concernés de pouvoir intervenir comme ça dans les classes pour expliquer le handicap des enfants en général.
Et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs aussi, hein, bien sûr, dans les médias, parce que je crois que les médias ont un rôle à jouer là-dessus. Merci beaucoup à vous, Christelle Chassan. Ethan ira-t-il à l'école, publié aux éditions Autrement, Bénédicte Kell de APF France Handicap. Et merci à vous, Jean-Marc Huard, directeur de la DGESCO au ministère de l'Éducation. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Une chronique à retrouver en podcast et on vous retrouve aussi dans la revue transculturelle L'Autre. Aujourd'hui, un sujet évident et pourtant, les enfants ont besoin de jouer.
Et oui, ça semble une évidence. Partout dans le monde et même dans les situations les plus difficiles et les plus tragiques, les enfants ont besoin de jouer. Parfois on l'oublie en fait. Jouer leur permet de grandir et d'appréhender la réalité, de l'apprivoiser, de la comprendre, de ne pas en avoir trop peur. Pourtant, j'ai constaté que les enfants jouent de manière très, très, très différente et que les adultes se représentent le besoin de jouer des enfants de manière très différente aussi. Par exemple, il y a des jeux de règles, c'est ce que les Anglais appellent le game, qui ont deux mots, eux, pour dire jeu, alors que nous, en français, on n'en a qu'un pour dire des jeux très différents. Le deuxième type de jeu, c'est le jeu avec l'imagination, le jeu autour de l'imaginaire. C'est ce que les Anglais appellent le play. Alors parfois, en fonction des lieux, des cultures, des périodes, on favorise les jeux de règles ou les jeux éducatifs. Parfois, on privilégie les jeux de l'imagination, de la fantaisie, du rêve. Et en fait, les enfants ont besoin des deux, mais les jeux de l'imagination sont très importants pour eux, pour leur développement, pour leur vie psychique. Jouer pour le plaisir de jouer, en fait, c'est ça qui est essentiel
c'est
pour
ça,
les enfants.
Jouer aux petites voitures, par exemple.
Hein. Oui, jouer à faire comme si, à faire semblant. Et en fait, aujourd'hui, en tout cas, dans notre monde occidental, on a tendance à insister sur la fonction éducative du jeu. On joue pour apprendre dès tout petit ou même pour apprendre plus facilement, pour développer des capacités qui vont aider les enfants à apprendre. C'est possible, bien sûr, des jeux comme ça, en particulier pour les plus grands. Mais ce n'est pas la fonction première du jeu chez les enfants.
Les enfants jouent avec qui ? Est-ce qu'il faut qu'ils jouent entre eux ou bien c'est important que des adultes jouent avec eux ?
C'est quelque chose où il y a beaucoup de variations. Dans certains endroits du monde, comme en Europe, les adultes jouent beaucoup avec les enfants. Et dans d'autres, comme par exemple dans les zones un peu plus rurales d'Afrique de l'Ouest ou d'Afghanistan, c'est là où j'ai vu, les adultes, en fait, ne jouent pas directement avec les enfants. Les adultes créent les conditions du jeu pour que les enfants puissent jouer soit tout seul, soit le plus souvent jouer entre eux, avec ceux de la même classe d'âge. On dit même dans ces endroits que si les adultes jouent avec les enfants, cela les empêche de jouer vraiment. Ah oui. Ça arrête leur imagination et leur rêverie. Et je me souviens même, on m'a expliqué que si les adultes jouent directement avec eux, ça les rend bêtes en fait, parce que ça, ils vont jouer à hauteur d'adultes et ça, c'est pas bien pour les enfants. Ils considèrent dans ces cas-là qu'il faut permettre aux enfants de jouer et créer les conditions de sécurité pour qu'ils jouent.
Donc, observer ses enfants jouer avec bienveillance, ça peut suffire finalement quand on est un adulte. Mais alors, est-ce que les enfants jouent au même jeu partout ?
Alors non, bien sûr, on a déjà vu qu'il y avait différents types de jeux qui sont valorisés en fonction des lieux et des époques aussi. Et en fait, différentes compétences sont valorisées. On peut, par exemple, valoriser les jeux moteurs. Parfois, pour les garçons, on valorise plutôt les jeux moteurs. Pour les filles, les jeux plus de faire semblant. Ce qui est évidemment ce que nous, on fait de moins en moins. Mais il y a des endroits où ces jeux moteurs sont valorisés. Dans d'autres endroits, c'est les jeux intellectuels. Parfois, c'est les jeux de scénario. Parfois, c'est le faire semblant ou on fait comme si. Donc, c'est vraiment des jeux très, très différents.
Il y a des jouets partout.
En fait, non.
Parce que tout peut servir de jeu, de jouet.
Exactement. Tout peut. Et alors, nous, on fabrique des jouets à proprement parler, c'est-à-dire des choses qui ne servent qu'à jouer et qui sont fabriqués pour jouer. Ça n'existe à peu près que dans le monde occidental, en fait. Partout ailleurs, les enfants jouent d'abord avec les choses de la vie quotidienne. Ils utilisent des objets du quotidien pour jouer, comme une cuillère, un morceau de ficelle, un fragment de toile d'un bateau. Je me souviens, par exemple, quand je travaillais en Afghanistan, dans les camps, et avec les enfants afghans, les enfants adoraient jouer avec les bracelets de pacotille de leur mère. Alors, les femmes leur donnaient bien volontiers et les récupéraient quand ces bijoux étaient délaissés par les enfants. Ça devenait un jouet, mais c'était transitoirement un jouet.
Donc, conclusion, il faut laisser jouer les enfants. Plus que de raison, parfois même, non ?
Exactement, plus que de raison. Jouer de mille et une façons, parce qu'en fait, tous les jeux sont bons. Jouer pour jouer, surtout. Jouer pour le plaisir, c'est vital pour les enfants. Et on peut jouer de tellement de manières tellement différentes. Toutes les manières sont possibles. Mais surtout, laissons nos enfants jouer pour jouer, c'est vital.
Merci Marie-Rose Moreau. On retrouve toutes vos chroniques en podcast sur RFI.fr. Il suffit de taper sur un moteur de recherche « Parents-enfants » Marie-Rose Moreau, RFI, et ça sort sans problème. Ou bien sûr, à retrouver sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup.
Merci.
Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera de la haine contre les journalistes. À lundi.